écoutez Alice Squatel. De Sekaya FM, vous écoutez Ainsi Squatel et c'est avec toute l'équipe qu'on termine aujourd'hui cette saison haute en couleur. Donc bonjour Marie, Tiffaine, Hélène, moi c'est Evelyne au micro.
Allô!
Allô, allô!
Et on va avoir une émission bien chargée aujourd'hui. Comme d'habitude, on va parler, faire un bref retour sur l'Université féministe d'été, notamment une conférence qui nous a bien marqué, Tiffaine et moi, une conférence de Daniel Juteau. Ensuite, on va faire un petit retour sur la grève étudiante, évidemment, le sujet de l'heure. On va avoir une petite chronique livre avec Marie. Et ensuite, on va terminer en faisant un retour sur le Festival Off de l'anarchie qui a eu lieu à Québec le week-end dernier. Donc, avant de commencer tout ce beau contenu, on commence en musique avec une pièce qui a été choisie par Tiffaine. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vous propose d'écouter la toute nouvelle chanson d'Ariane Moffatt qu'elle a écrite pour... signifier son désaccord à la loi spéciale, l'ex-projet de loi 78. Là, je me rappelle pas de son nom, mais comme le nom me fait chier, j'aime mieux pas le dire de toute façon.
De toute façon, elle va voilà. L'abroger.
Donc, une chanson d'Ariane Moffatt.
Paris 6 heures. Le Québec se réveille sous le règne de la peur. À Cannes, c'est le festival de dollars nécessaires. À l'église, on prie pro vie chez les conservateurs. Rouge et vert sont coincés dans la même fourrière. La planète dit adieu à sa grande donne à sommaire. Y a un frisson qui passe entre mes pieds et mon cœur. Je n'invente rien, c'est la presse qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. Sur la terre, la gaga censurée doit annuler des concerts. Pauvre Zampino sorti du lit à coups de marteau, alors que Lynn Beauchamp doit enchaîner les mojitos. Partout dans les rues, des étudiants en colère. Almanach quotidien fumigène dans l'atmosphère. Mais je n'invente rien, c'est Jean Charest qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale.
Que les propos de Jean Charest passent très mal auprès des étudiants qui manifestent encore ce soir.
Monsieur Charest, j'ai honte aujourd'hui d'être québécois à cause de vous.
Faites-vous confiance au peuple, aux élus du peuple québécois? La réponse a été non.
La situation actuelle a duré trop longtemps.
Sur le les ondes de CKIA FM. Vous écoutez Ainsi squatte-t-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Et un petit retour sur l'université féministe d'été qui a eu lieu à l'Université Laval du 20 au 25 mai dernier. En pleine période de grève étudiante, c'était un colloque international sur le thème « Féminisme et changement social, enjeux et défis pour l'action et la recherche ». Donc, c'était très à propos le thème du changement social cette année en 2012 et ça s'est répercuté à peu près dans toutes les séances de conférences et dans la tension dans l'atmosphère et dans les carrés rouges que les étudiants, étudiantes, professeurs et invités portaient pendant la semaine. L'Université féministe d'été s'est ouverte par un mot de bienvenue de la vice-doyenne de la Faculté des sciences sociales et la vice-doyenne a félicité les organisatrices d'avoir organisé cet événement-là malgré le contexte difficile de boycott des études. Un silence de mort dans la salle. Tiffaine, je te laisse enchaîner.
Oui, c'est ça. Ça a quand même donné le ton à la semaine. Faut dire que même avant la séance du lundi matin avec ses super mots de bienvenue officiels, quoi qu'il fallait s'y attendre, là, autrement ça aurait été le doyen qui est pas forcément mieux dans ses allocutions. Fait qu'on a eu le droit à la vice-doyenne qui était plutôt veg. Et puis, il faut dire que la journée précédente, il y avait pour seulement les personnes qui étaient inscrites à un cours, parce que ce colloque-là, donc, il est ouvert à plein de gens. Il y a des groupes de femmes qui viennent, il y a des personnes qui viennent de différents pays, là, particulièrement depuis un moment, il y a des délégations qui viennent d'Haïti. Donc, cette année, il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes, qui venaient d'Haïti, des personnes de plusieurs régions du Québec. Donc, c'est un colloque qui est ouvert à plein de monde, mais qui peut aussi être utilisé par des étudiants du premier et deuxième cycle comme un cours crédité. Donc, il y avait une rencontre pour les personnes inscrites au cours et dès ce moment-là, le dimanche après-midi, on sentait déjà la tension autour du contexte de grève. Il y a quelques personnes. Il y avait une exécutante d'une association étudiante de l'UQAM qui était en grève, qui a pris la parole pour dire, tu sais, nous, on n'est pas très à l'aise avec la tenue de l'événement, pour avoir parlé avec plusieurs personnes de l'UQAM après coup. Elle s'attendait toutes à ce que l'Université féministe d'été soit levée à cause du contexte en ce moment. Elle comprenait pas trop que ça se tenait. Puis c'était le cas aussi de plusieurs personnes qui étaient invitées, comme on nous l'a dit là, en cours de semaine. Malgré ça, il n'y avait pas énormément d'ouverture de la part des organisatrices. A priori, au départ, on a vraiment senti une fin de non-recevoir là, quand il était question de pas remettre les travaux tant qu'il y avait une grève en cours, par exemple. Il faut dire que ça s'est poursuivi là. On nous a répondu donc qu'individuellement on avait le choix d'abandonner le cours, ce qui est une drôle de réponse dans un colloque sur l'action collective, le changement social, la solidarité féministe, etc. En cours de semaine, il y a eu plusieurs interventions qui nous ont rappelé le contexte dans lequel on était, sans compter les arrestations de masse qui ont eu lieu en cours de semaine aussi. Donc, tu sais, si quelqu'un avait oublié, il y avait énormément de participantes à l'Université féministe d'été qui allaient au manif le soir, on se recroisait là, puis bon, mercredi dernier, on le sait, 176 arrestations, Hélène, tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais bon, le contexte était difficile à oublier. Il y a trois des invités du colloque qui ont fait des commentaires très très clairs à l'effet qu'elles croyaient que le colloque n'aurait pas dû être tenu pendant cette période, que les étudiantes ne devraient pas être là. Donc, c'est ça. Il y a eu un petit peu aussi de sentiment de culpabilité qui a été, qui s'est promené là, d'un bord et de l'autre de la salle. Est-ce qu'on devrait être là? Est-ce qu'on devrait pas être là? Tant sur l'estrade que dans la salle de classe. Mais ça a donné lieu à une mobilisation d'étudiantes qui, c'était plutôt intéressant parce que comme c'est pas un cours régulier, il y a des étudiantes de plein d'universités qui étaient présentes, des facultés en grève, d'autres pas, beaucoup de personnes dans des contextes super, leur asso de programme est en grève, leur asso facultaire ne l'est pas, elles savent pas si elles sont en grève ou pas. Nous, on arrivait avec l'idée que peut-être c'était, comme l'allié est en grève, on devait pas participé à un colloque. On se demandait pourquoi il était pas piqueté. Là, il a dit qu'il allait pas piqueter le colloque, mais finalement, le colloque relève de la ESS. Donc, finalement, on s'est retrouvés dans une drôle de situation. Et après de longues discussions et des débats et des questionnements personnels et politiques et militants, on en est venu à la conclusion que peu importe les subtilités administratives et les dédales de l'organisation des associations étudiantes de l'Université Laval, on croyait que dans un contexte de colloque féministe sur le changement social, on était en mesure de revendiquer qu'il y ait un aménagement qui soit fait à l'horaire pour que les personnes qui sont activement en train de militer dans le cadre de la grève étudiante puissent le faire, puis que leur participation à ce colloque-là ne leur nuise pas dans leur militance, puis que peu importe les détails administratifs, on croyait que c'était une revendication légitime. Donc, finalement, on a écrit une lettre à cet effet, collectivement, qu'on a lue à l'Assemblée et puis qu'on a déposée, là, qu'on va maintenant signer toutes les personnes qui sont intéressées à le faire pour renvoyer en version papier aux organisatrices.
Malgré tout, est-ce que vous vouliez qu'on écoute une chanson tout de suite ou si vous voulez qu'on... parce qu'il y avait une conférence dont Tiffany et moi, on voulait quand même vous parler.
On peut passer en musique. J'avais choisi une chanson de Lisa Leblanc dont on a beaucoup entendu parler cette année, puis j'ai trouvé son CD qui traînait ici à la station. Et il y a une chanson particulièrement sympathique qui s'appelle « Chanson d'une rousse péteuse ». Donc voilà, on écoute ça.
Chansonniers qui font des covers de Johnny Cash. Mon poisson et mon manteau sur fini, je dans mes SPM, attends ce que tu me dis. J'aime pas les tunes qui jouent à la radio. Je trouve que j'ai gagné un kilo de trop. J'ai le gouvernement, puis j'ai pas de shop. Puis les cités encore, je joue pas seul fun. J'ai un petit mal de gorge, puis je trouve ça un petit peu. Je vais mourir.
Sur les ondes de CKIA FM, c'est Molly toujours... Ainsi soit-elle, et il y a Lisa Leblanc qui nous a fait une petite farce en suspendant sa chanson quelques secondes comme ça. Donc, on écoutait Lisa Leblanc avec sa chanson de la rousse péteuse. Donc, on va continuer, en fait, avec notre retour sur l'université féministe d'été qui, malgré le contexte difficile de la grève étudiante qui a placé plusieurs personnes en questionnement éthique, autant dans les conférencières que dans les participantes, offrait quand même un espace de réflexion sur le féminisme et sur le changement social. C'était le 10e anniversaire de l'université féministe d'été, donc une occasion quand même de revenir à la fois sur, il y a eu des conférences sur l'histoire du mouvement féministe au Québec, etc. Donc, sur plein de sujets très actuels aussi au niveau du changement social. Donc, une des conférences qui nous a marqué ou qui nous a intéressé, c'est la conférence de Daniel Juteau qui avait lieu, laissez-moi voir, dans le programme...
Le lundi.
Le lundi en après-midi. Son thème était le « nous, les femmes ». Donc, c'était sur l'indissociable hétérogénéité et homogénéité d'une catégorie sociale. Donc, je sais, pour celles et ceux qui nous écoutent souvent, c'est une question qui revient quand même dans plusieurs questionnements féministes, hein, c'est qui ça, les femmes, tu sais? Est-ce que le fait que la catégorie femme soit diversifiée, le fait que des féministes de plein d'endroits ont critiqué les féministes blanches occidentales pour être spécifiques plutôt qu'universelles et toutes ces critiques-là qui ont été apportées dans l'histoire au féminisme... je sais pas comment dire, politiquement correctement, là.
Et aussi, sans être politiquement correct.
Et sinon, aussi, toutes les critiques queer aussi du féminisme. Donc, comment, après avoir entendu toutes ces critiques-là, comment des féministes peuvent continuer de tenir une analyse matérialiste? Moi, en tout cas, son discours m'a beaucoup réconcilié avec le féminisme matérialiste. Trent, peut-être que tu peux compléter.
Oui, ben moi aussi, en fait, pour avoir étudié en études féministes dans un contexte qui était très critique, justement, de ce qu'aux États-Unis, tout le monde appelle la deuxième vague, donc le féminisme qui partait beaucoup de femmes blanches, etc., comme tu nous as nommé, et qui était très totalisant, où on considérait que les femmes, c'était un tout qui était opprimé, puis où on devait, qui devait s'attaquer à l'oppression par la classe des hommes. Puis bon, dans les études, pendant mon parcours universitaire, j'ai beaucoup entendu de critiques à ça, tu sais, de plein d'horizons différents. Je trouvais que l'approche de Danielle Juteau était super intéressante parce que, d'une part, elle remettait en question justement ce présupposé-là que les féministes des années 60 et 70 avaient complètement omis de parler de la diversité à l'intérieur
de la catégorie femme.
Donc, elle montre avec quelques exemples là, comment il y avait en effet la diversité, elle était reconnue, puis elle existait, quoique c'est certain qu'on peut pas non plus dire que tous les aspects de la diversité a nécessairement été présent, mais qu'elle existait d'une part, puis surtout que c'est important de travailler conceptuellement cette notion des femmes, la catégorie femme, il faut constamment la théoriser parce que si on fait que la critiquer, ben on peut se perdre dans les dédales de préciser genre les femmes de couleur, les femmes lesbiennes, les femmes ci, et puis on peut rajouter énormément de détails autour de la catégorie femme, puis à cause de ça, en arriver à pu remettre en question l'existence même de cette catégorie-là, alors que l'objectif du féminisme, entre autres, c'est de complexifier la catégorie puis de se poser des questions là-dessus.
Donc, Danielle Juteau référait à des féministes deuxième vague, comme tu l'as mentionné, comme par exemple Colette Guillaumin, Christine Delphi, dont on a parlé ici, qui écrit encore, Nicole-Claude Mathieu aussi. Donc, elle s'associait vraiment à ces féministes matérialistes-là pour montrer comment... puis pour remettre au goût du jour l'utilisation de la terminologie « la classe des femmes », ce qu'elle essayait d'expliquer vraiment, c'est que cette explication-là ou ce que ces féministes-là essaient de mettre de l'avant, c'est que cette catégorie-là est construite dans des rapports de domination. Donc, c'est absolument pas essentialiste que d'utiliser le mot « femme » ou la catégorie « femme ». Lui, elle a trouvé qu'au contraire, ça devenait une certaine forme d'essentialisme ou de substantialisme que d'utiliser le genre comme catégorie, tu sais, de dire le sexe existe et le genre lui a été, le genre c'est le contenu social qu'on attribue au sexe. Elle a dit Judith Butler là, qui a déconstruit ça, c'est les féministes matérialistes qui l'ont fait bien avant, qui ont dit non, c'est le genre comme ou les rapports sociaux de sexe qui font que on a décidé de diviser, tu sais, on a inventé le sexe comme signe de la différence.
Puis qu'il y a aucune des deux catégories, homme ou femme, qui existe en dehors du rapport à l'autre, de la même façon que on peut parler de rapports sociaux de race qui vont ou sans reconnaître encore là l'existence essentialiste ou l'existence, tu sais, réelle des races comme groupe qui existent dans l'absolu, mais on peut tout de même reconnaître l'existence de rapports sociaux de race. Et puis elle parlait aussi donc du fait que ce qui est au centre de la construction des rapports sociaux de sexe, c'est l'appropriation du travail des femmes, l'appropriation du travail de reproduction, et puis je sais pas si tu l'as elle utilisait un autre terme là,
mais elle utilise le terme sexage comme rapport, de la même façon que Colette Guillaumin, parce qu'elle dit non seulement c'est le travail des femmes qui est approprié, la classe des femmes qui est appropriée par la classe des hommes, mais c'est l'être, tu sais, c'est l'appropriation des êtres humains carrément là, qui s'effectue dans ce rapport social-là. Donc, dans cette théorie-là, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la marque, qui dans ce cas-ci le sexe, ne précède pas le rapport, elle le suit. Donc, j'essaie de relire mes notes en restant, en essayant de vulgariser, là, mais c'était quand même un exposé assez théorique.
Mais fort intéressant, en tout cas, moi, je crois que ça mérite qu'on continue d'y réfléchir, puis que, justement, on s'arrête pas, tu sais, dans un contexte où on veut être très inclusive et parfois un peu trop politiquement correct, qu'on s'arrête pas à seulement complexifier constamment, puis essayer de devenir, tu sais, oui, il faut être inclusive, mais une façon d'être inclusive, ça peut-être être par une réappropriation des notions de classe de sexe.
Je voulais peut-être ajouter, dans le fond, qu'une des choses controversées qu'elle disait, c'était que cette unité du « nous-femmes », à quelque part là, cette homogénéité-là, tout en reconnaissant l'hétérogénéité, elle voulait pas dire qu'on était nécessairement solidaires. Puis elle disait que cette sororité-là, cette solidarité-là entre femmes, elle se construisait dans la résistance. Donc, un peu à la manière des marxistes classiques ou des marxiens, je sais plus trop comment il théorisait la conscience de classe, mais là, cette sororité-là, cette solidarité-là, elle dit qu'on va la découvrir en se mobilisant, puis en se mobilisant en tant que femme. Donc, c'était quand même bien intéressant. Puis, ça m'a envie d'aller relire Delphine, Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin, avec ma vision actuelle.
On dirait que j'aurais... Ouais.
Beaucoup de choses à dire.
Oui, j'ai pas assisté à la conférence. Ça a l'avantage de susciter des débats. En tout cas, ça en suscite dans ma tête en ce moment. Mais qu'est-ce que j'aurais juste envie de dire de même à chaud? C'est comme un argumentaire que j'ai déjà entendu, pas juste de sa bouche, quand j'ai commencé à lire les féministes de la vague noire-américaine, afro-américaine, qui me fait sursauter, mais c'est ça. J'ai passé à la conférence, mais ce que je dirais en gros, dans le fond, c'est j'ai beaucoup de misère avec l'argument selon lequel il faut pas trop complexifier l'analyse parce que ça nuit à la lutte. Je suis tellement pompée. Mais c'est ça, tu sais, comme si complexifier la grille ou en tout cas la classe femme, si c'est de la complexifier de prendre en compte, puis en fait même là de prendre en compte, c'est encore de référer, supposons prendre en compte la perspective des personnes qui sont pas hétérosexuelles, la perspective des personnes qui sont pas blanches, si on dit que c'est complexifier la classe, de les prendre en compte, c'est déjà de référer à une norme, c'est de référer à quelque chose qui serait au-dessus de ça, puis je pense qu'il y a je comprends que c'est plus compliqué de prendre tout en compte, mais tout le monde est là sur la planète, puis il faut le faire. Puis ce que des féministes nord-américaines comme Audre Lorde ou Berlout ont amené, c'est que c'est pourquoi il faut pas penser ça de manière, tu sais, d'ajouter, pour être politiquement correct, justement, d'ajouter des couches. C'est pas comme ça qu'il faut le penser. Il faut le penser à l'horizontale, dans une alliance. Mes lectures sont très loin, mais en tout cas, j'aurais aimé ça, c'était la conférence. Puis j'en ai discuté aussi avec une personne qui a assisté à cette conférence-là. Puis c'est un peu le même débat qu'on a eu au téléphone, parce que comme vous deux, elle est sortie vraiment de là, super intéressée. Puis moi, j'étais vraiment en réaction, mais faudrait en reparler de tout ça.
Mais en effet, il faut en reparler, puis il faut se poser des questions. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est c'est justement que elle remet pas en question la pertinence de l'intersectionnalité dans une utilisée de façon où chacune des catégories qu'on utilise devienne pas que ça devienne pas une question d'intersection des identités, mais plutôt que ça soit une articulation des rapports sociaux qui crée des oppressions. Donc que l'articulation des différents rapports sociaux soit prise en considération, mais qu'on fasse pas justement qu'on n'ait pas une approche additive des différentes identités qu'on peut porter. En fait,
c'était vraiment présent dans la réflexion. C'est pour ça que je la trouvais d'autant plus beaucoup plus intéressante que ce que je pouvais avoir lu de féminisme matérialiste à la base, tu sais, parce qu'elle en a vraiment parlé d'intersectionnalité, puis elle l'invitait justement à la réfléchir en termes, comme tu viens de le dire, d'articulation puis de rapports sociaux, parce que elle c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup justement sur les rapports sociaux de race, par exemple. Donc, j'ai retenu son nom, je vais aller lire qu'est-ce qu'elle a fait par ailleurs, puis peut-être que à la prochaine saison, on va pouvoir en reparler plus en profondeur.
Moi, je vais encore rebondir là, sur ça. J'ai pas assisté non plus à la conférence. Puis c'est vrai que moi, ça m'amène une question par rapport aux termes qui sont utilisés. Puis quand vous parlez de réappropriation des termes, c'est ce qu'elle voulait faire par rapport à la catégorie femme, justement, moi, je me pose une question. C'est que quand on parle de femme, la plupart des gens ont leurs idées en tête. Et puis et donc de se réapproprier le terme puis d'y mettre un autre contenu, c'est intéressant, mais il faut toujours le réexpliquer. Puis moi j'aurais tendance à dire du coup le groupe dites femmes ou entre parenthèses femmes, ou tu sais, moi je suis beaucoup sur des questions de langage aussi des fois, mais parce que moi c'est ça que j'aime avec le terme de genre, justement, c'est que c'est un nouveau concept, c'est quelque chose de nouveau, donc on reste pas ancré dans les choses qu'on a toujours pensé comme étant naturelles, comme étant ancrées et tout ça. Donc c'est vrai que moi toutes ces réflexions puis ces ajouts de sens finalement sur le mot femme, ben oui, c'est intéressant à partir du moment où on en discute, mais si on met ça dans un titre genre les femmes tatata, on voit pas forcément le contenu politique dans la dénomination femme. Donc en tout cas moi c'est une réflexion plus par rapport à ça aussi.
C'est clair que pour le choix des mots, c'est vraiment important, puis que quand on dit femme, on pense identité femme, puis là c'est à ce niveau-là que peut-être que ça existe absolument pas, l'identité femme, tu sais, mais elle, quand elle utilise le mot femme, c'est pour dire rapports sociaux de sexe, mais tu sais, tant que ça, elle pourrait juste dire rapports sociaux de sexe. Moi, c'est l'expression que j'ai criée après ça pendant toute la fin de semaine dans ma tête pour les raisons dont on va vous parler plus tard, mais rapports sociaux de sexe! Mais bref, effectivement, c'est vraiment délicat, le choix des mots dans des questions comme ça.
Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ce retour sur l'université féministe et puis sur cette présentation.
Ouais, on va peut-être avoir le temps de décanter en écoutant... j'ai amené plein de chansons du nouvel album de Santi Gold que je viens juste d'acheter, parce que je me suis dit qu'on aurait envie de le découvrir ensemble. Je l'ai écouté en diagonale. Je savais même pas que ça se pouvait de faire ça.
Oh oui.
Mais il y a plein de titres super inspirants qui s'en viennent. Mais on commence avec une chanson qui s'appelle Go, qui est en collaboration avec Karen O, qui est la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs. Donc voilà, c'est tiré de l'album Master of Make Believe.
Taken.
ondes de CKIA FM, toujours à l'écoute d'Ainsi squat-elle, et on revient sur un thème de mobilisation. On était dans le changement social et là, c'est ici, c'est maintenant.
Oui, ça se passe à Québec, au Québec. La dernière fois qu'on s'est parlé, la dernière émission, je festoyais la démission de Beauchamp sans voir que c'était la pointe de l'iceberg finalement, et tout s'est précipité dans les deux dernières semaines. Peut-être pour vous faire ça en bloc, dès le lendemain, dès le jour même, en fait, la ministre Michèle Courchesne a été nommée, a rencontré très brièvement les différents représentants et représentantes des associations étudiantes, soit la classe, la FEC, la FEUC et la TASEC, et dès le lendemain, vote de la loi, dépôt de la loi spéciale. Ça s'est vraiment fait en vrac. On a assisté au discours de Jean Charest qui se prenait clairement pour un dictateur, un fasciste. Là, moi, j'avais froid dans le dos en le regardant faire son discours. Et donc, dépôt d'une loi spéciale, vraiment, qui s'est décidé que ça a été débattu en chambre jusqu'aux petites heures du matin. Donc, tout le contexte était vraiment là. Peut-être pour vous rappeler, on va pas trop, je n'ai pas envie de m'étendre trop sur les détails de cette loi-là, qui, en fait, ce qui est quand même positif, c'est qu'en ce moment, ils sont incapables de l'appliquer. Mais peut-être quand même pour se remettre dans le bain. Donc, cette loi spéciale-là, la loi 78, en vrac, amende possible de 25 000 à 125 000 $ pour les associations étudiantes ou syndicats, obligation totale de donner l'heure, la date, le trajet des manifestations, amende de 7 000 à 35 000 pour un employé ou dirigeant d'une association qui est responsable également de ses membres. La ministre peut suspendre les cotisations des étudiantes des associations qui respecteraient pas le libre accès à l'éducation, donc finalement qui décideraient de faire du piquetage. Par journée de piquetage qui serait fait, c'est une session de cotisation qui est perdue, 1 000 à 5 000 piastres d'amende pour toute personne qui respecterait pas la loi 78. Et aussi, où est-ce que ça allait plus loin, ce qui a vraiment fait sursauter beaucoup de gens, c'est tu as les mêmes amendes si tu as participé, si tu as par omission, donc si tu n'as pas averti les gens de ne pas y aller. En tout cas, c'est vraiment fou, cette loi-là. Donc, sortie le 17 mai, dès 18 mai, sortie en bloc, il y a plusieurs professeurs d'histoire qui sont sortis évidemment, ça se passe beaucoup dans le devoir, donc ils ont écrit une lettre ouverte pour dire que c'était, dans toute l'histoire du Québec, un des plus grands reculs. Profs de droit aussi, plus d'une quarantaine, qui ont signé une lettre pour dire qui s'y opposait. Demain, manifestation d'avocats en toge pour dénoncer cette loi. Il y a la Ligue, il y a l'Amnesty International, plusieurs groupes communautaires, syndicats qui sont sortis. Dès le lendemain aussi, il faut quand même garder le sourire, il y a eu beaucoup de téléphones farfelus qui ont été faits à la police pour dire, allô, c'est pour vous avertir que j'étais avec 5 amis dans le salon et qu'on va aller au dépanneur tantôt. La Chambre de commerce de Gatineau, je trouve ça drôle de le dire pour montrer à quel point la révolte, l'indignation, elle a été vraiment plurielle. Donc, Chambre de commerce de Gatineau qui, dès le lendemain, a émis un communiqué de presse pour avertir la police qu'ils allaient faire, qu'ils allaient être dans le stationnement à telle heure, puis qu'ils allaient se rendre à leur bureau à telle autre heure. La FEUC, la FEC et la classe qui ont créé une demande, c'est la FEUC qui est à l'origine, mais maintenant toutes les associations sont derrière ça, donc qui a créé une demande d'ajout à la requête en nullité du projet de loi spécial 78, plus de 1 000 signataires en 40 minutes et ça continue. Autre fait intéressant aussi pour vous montrer à quel point la loi a fait réagir, pression internationale, donc que ça soit dans Le Monde, dans l'Humanité, le Guardian et j'en passe, des articles qui ont été écrits donc sur l'état d'exception, sur cette loi-là d'exception qui venait d'être adoptée au Québec. Entre autres, Le Monde, l'Humanité et un autre journal dont j'oublie le nom, l'International, ont carrément dépêché cette semaine des journalistes à Montréal pour suivre ce qui se passait. Manifestations aussi au niveau plus donc de la société civile, des gens à Sao Paulo, au Chili, à Paris, à New York, Calgary, Edmonton, à Cannes, Xavier Dolan aussi, qui a fait beaucoup parler avec son carré rouge. Donc, vraiment des manifestations un peu partout qui se sont organisées en solidarité avec le... Vous m'entendrez pas dire ça souvent, mais avec le peuple québécois. Le devoir, je pense que c'est important de souligner à quel point leur travail est intéressant en ce moment. À situation exceptionnelle, éditorial exceptionnel. Donc, dès le lendemain, le 19 mai, les 5 éditorialistes du devoir ont signé ensemble un éditorial spécial. Puis depuis, vraiment, on voit leur couverture clairement. Encore avant-hier, ils présentaient vraiment en une 4 photos présentant le mouvement des casseroles un petit peu partout. La même journée, c'était assez ironique de voir que la une du soleil, c'était plutôt la population appuie la ligne dure, appuie la loi 78. Donc, en tout cas, clairement, il y a on pourrait discuter longuement de objectivité journalistique, mais en tout cas, clairement, ici, les gens prennent la... C'est ça, hein, quand il y a une situation comme ça, les masses tombent, les gens n'ont pas le choix de prendre position, et même de pas prendre position, si on est une position, c'est pas Sartre le premier qui l'a dit, mais qui l'a écrit certainement. Sinon, j'avais aussi envie de vous mentionner, il y a tellement d'initiatives, mais je voulais parler du groupe Anonymous, donc le 20 mai, qui ont sorti une vidéo YouTube où est-ce qu'ils lançaient un avertissement au gouvernement. Nous sommes anonymes, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, n'oublions pas, redoutez-nous, ce qui est assez intense, et ils ont poursuivi leurs attaques, donc, contre plusieurs sites, dont le Miez, dont Vidéotron, etc., et les shutdowns sont assez manifestes et criants. Tout ça s'accompagne, évidemment, de répression, entre autres, la gang de CUTV, donc, de Montréal, qui font un travail absolument extraordinaire. Je pense que c'est important de le souligner, ils font vraiment la barbe à tous les médias, on peut vraiment les suivre, on peut suivre les manifestations en direct, ils sont vraiment toujours en première ligne, entre autres un des caméramans qui a été blessé sévèrement lors d'une répression de la police la semaine dernière. Donc, si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller consulter leur site, c'est vraiment très, très intéressant, puis ça donne... C'est ça, c'est un journalisme engagé comme il s'en faisait plus depuis longtemps. 21 mai, où, tu veux-tu parler, Simon?
Je voulais juste préciser, c'est la télévision de l'Université Concordia, donc c'est une université qui a son propre... qui diffuse, là, donc je trouvais que c'est quand même impressionnant comme média étudiant, là, d'avoir une télé en direct dans les manifs, puis il y a une initiative de ce genre-là qui commence à Québec, là, je pense que ça s'appelle Radical FM.
Non, c'est vraiment, vraiment intéressant, là, à souligner, là, n'hésitez pas à aller le voir, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'alimentent, là, à CUTV, là, vraiment, qui suivent ça de près. 21 mai aussi, très intéressant, parce que à partir du moment, dès le lendemain de l'adoption de la loi spéciale, il y a eu une sortie de la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics et des syndicats pour dénoncer la loi. Mais pour avoir parlé à une amie qui est très proche du groupe, elle est sortie un petit peu de la conférence de presse en disant « Oui, mais tu sais, il n'y a pas eu d'appel à faire quelque chose. » Puis bon, c'est à partir de cette date-là, c'est un peu resté lettre morte dans le sens que les gens se posaient des questions. 21 mai, la classe a fait une conférence de presse, a pris le lead et a invité à désobéir à la loi, donc exposant les exécutants exécutantes de la classe à se faire arrêter. Ils auraient pu se faire arrêter sur le champ, dans le fond, si on tenait à la loi. Lancer en même temps le site arrêtez-moi-quelqu'un.com où est-ce qu'il y a plus de 6000 personnes qui ont placé leurs photos pour dire « je désobéis à la loi ». Et c'était particulièrement intéressant, particulièrement émouvant, en tout cas pour avoir assisté à la conférence de presse, j'avais vraiment des frissons parce que je me disais « wow, ils sont vraiment tout seuls, les syndicats sont pas derrière eux, et non seulement sont pas derrière eux, mais je voudrais employer plein de mots grossiers, mais je vais tout simplement dire, le président de la FTQ, le lendemain, a dit que eux, avec leur expérience, n'inviteraient jamais leurs membres à désobéir à une loi, puis qu'ils invitaient la classe à réfléchir. Donc, on a compris pourquoi ils n'étaient pas derrière la classe la veille à la conférence de presse, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un acte tellement courageux, à la fois de la part de Jeanne, de Renaud, de Gabriel Nadeau-Dubois également, mais aussi, il faut pas l'oublier parce qu'on les nomme toujours, mais ça demeure des porte-parole, même si ça rentre pas dans la tête des journalistes, donc de toutes les associations membres de la classe, parce qu'en fait, eux ont porté le message de ces associations-là qui ont dit, même si c'était tout seul, ils l'ont fait, et puis ils ont vraiment, en plus, c'était tellement bon dans leur message parce que non seulement ils ont dit, bon, on invite à désobéir à la loi, ils ont dit c'est une loi qui est inacceptable, il n'y a aucune organisation jusqu'à maintenant qui a invité, tout le monde a dénoncé, mais personne n'a invité à faire une action ou une autre, puis ils n'ont pas jeté la pierre à personne, ils n'ont pas dit « bon, ben les autres, c'est des lâches, nous, on est courageux », ils ont juste dit « nous, en accord avec nos principes, on invite les gens à désobéir à cette loi », et ce que ça leur a donné le lendemain, le 22 mai, ils n'ont pas donné leur trajet à la police, donc c'était en partant un acte de désobéissance civile, donc clairement de désobéir à la loi 78, et ça a été une des plus grosses actions, en fait, de désobéissance civile de l'histoire du Canada, plus de 500 000, bon, les chiffres, il y a des gens qui disent 250 000, il y a des gens qui disent 500 000, mais en tout cas, entendons-nous pour dire qu'il y avait pas mal de monde dans la rue qui défiait ouvertement la loi, et d'ailleurs, le soir même, on a vu, la police n'est pas intervenue dans l'après-midi, mais c'était clair, c'était écrit dans le ciel que le soir, les gens qui allaient être à la manif de nuit allaient se faire durement réprimer, c'est ce qui s'est passé également. Mais ce qui reste quand même encourageant, c'est que cette loi-là, en fait, pour l'instant, ils sont absolument incapables de l'appliquer. Il y a Sherbrooke, où est-ce qu'il y a eu 36 arrestations en vertu de cette loi-là, et finalement, ils ont reculé parce qu'ils ont tellement peur qu'elle soit abrogée, contestée, qu'ils ont reculé ils sont revenus avec les règlements municipaux. Sauf erreur, je sais pas si quelqu'un peut me corriger, moi, c'était mon impression. Est-ce qu'à Québec, ça a été soit en vertu de la loi 78? C'est pas
non,
clair,
parce
hein?
que les personnes qui ont été arrêtées pendant la manifestation de mercredi dernier avec 176 arrestations n'ont pas encore reçu, en tout cas, ne l'avaient pas encore reçu vendredi, là, à moins que ça soit rentré aujourd'hui, mais ils doivent recevoir des constats d'infraction par la poste. Pour avoir été présente autour des lignes là, de la police, ils savaient pas selon quel article ils les arrêtaient. Ce qui me fait absolument halluciner, tu sais, ils sont en train de faire des arrestations de masse et ils ne savent pas à quelle loi ces personnes-là auraient soi-disant désobéi.
Oui, c'est de la répression pure et simple. Ça m'apparaît évident, mais en tout cas, chose certaine, visiblement, ils sont pour l'instant complètement... les policiers et également les gens qui sont au pouvoir sont complètement, je pense, désarçonnés par le fait que la population réagisse autant. Puis ça me permet de conclure sur ce dont je voulais vous parler, qui, dans la dernière semaine, a relativement changer la donne, en tout cas clairement au niveau du discours, c'est qu'on entend beaucoup moins parler de la question de la violence entre gros guillemets étudiantes et on parle vraiment beaucoup plus de la violence policière. Ça, entre autres, je pense qu'on peut l'associer au mouvement des casseroles qui a parti à l'initiative d'un prof de philosophie de Montréal, puis qui s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre, hein, quand on parle à Havre-Saint-Pierre, Gaspésie, parce qu'on parle souvent à Québec-Montréal, mais c'est vraiment à la grandeur de la province. Donc, peut-être pour vous dire rapidement les origines, donc, sous Pinochet, les gens... En fait, ça a commencé avant. Sous IND, des femmes, c'était très... Ça a été poussé par un mouvement de droite, par la CIA. Donc, ils sortaient dans la rue avec des casseroles pour dire « On a faim, c'est ça l'idée. » Puis, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, justement, l'aspect peut-être folklorique de reprendre le mouvement des casseroles ici, sans savoir c'est quoi les origines ou quoi. Mais il y a d'autres gens qui sont ressortis pour dire « Oui, ça l'avait été... » détourné, donc, à l'époque, mais ça a été repris sous Pinochet et ça a été repris récemment aussi à la crise en Argentine. Et un ami proche me rappelait aussi que c'est pas juste à ces places-là que ça s'est passé, mais qu'en Haïti aussi, on disait « battre les ténèbres », donc sous les différentes dictatures qu'il y a pu y avoir en Haïti, on disait « faire du bruit dans la nuit, taper sur les poteaux électriques en signe de protestation politique », par extension aussi « bruit de casseroles et klaxons », par extension récemment « durant la journée », etc. Donc, en tout cas, c'est un mouvement vraiment qui prend l'ampleur. On verra ça sera quoi les suites, mais je peux vous parler plus proche de moi à Limoilou. Depuis 2 jours, 1000 personnes dans la rue, des gens vraiment... On avait les collants, hein, la grève est étudiante, la lutte est populaire, mais on dirait qu'avec cette loi-là, vu que ça s'attaque à tout le monde, la lutte est devenue populaire, puis on voit vraiment des gens... Moi, ça fait 2 manifestations en ligne que je vois des casseroles, que je vois très peu d'étudiants, puis je me dis, ben tant mieux, c'est le temps que les gens prennent la relève. Puis peut-être aussi pour juste vraiment conclure pour vrai, 2 trucs aussi que je trouve assez comiques, des espèces de mascottes qui ont été sorties de nulle part, soit l'anarcho-panda à Montréal, qui est un prof de philosophie, puis la banane rebelle aussi à Québec, qui on dirait que sa version un peu motée, en guillemets, pour les avoir entendus les deux parler, parce que l'anarcho-panda, lui, c'est un prof de philo, donc qui était derrière l'initiative des chaînes humaines de professeurs entre les étudiants puis les flics à Montréal, mais ça a pas duré longtemps, parce que eux, c'était comme, ben, on va se mettre entre les étudiants et les flics, donc on va protéger nos étudiants. Mais après une semaine, c'est ce qu'il expliquait, ça fonctionnait plus parce que tous les profs étaient blessés. Fait qu'il y en avait plus là, de personnes qui voulaient se prêter à la chose. Donc, il est arrivé avec cette idée-là d'espèce tentative de pacifier, de calmer le jeu, puis finalement, c'est devenu une espèce de vedette, c'est assez drôle. La banane rebelle a un discours visiblement un petit peu moins articulé, mais en tout cas, c'est vrai que ça a un effet, en tout cas, pour les enfants à la manif, c'était assez drôle à voir. En tout cas, ça bouge. Ça reste à suivre. On va voir quel impact ça a sur les négociations, cette espèce de... Peut-être que je fais complètement fausse route, mais j'ai vraiment... Pour regarder les journaux tous les jours dans la dernière semaine, j'ai vraiment vu un accent qui était plus fort sur la violence policière, vraiment la dénonciation des abus, des arrestations de masse, etc. Qu'est-ce qui provoque ça? Bon, moi, j'amène l'hypothèse que le mouvement des casseroles médiatiquement est très... T'sais, c'est cute, c'est funny, etc. On verra quel impact ça va avoir sur les négociations qui ont commencé aujourd'hui. Hein. Je vous le rappelle que Courchaine rencontrait à partir de 2 heures les différents représentants des associations d'étudiantes. En tout cas, c'est à suivre.
On va suivre ça de près. En fait, on suit ça, j'ai l'impression, des fois, d'un peu trop près. Hein. Je trouve que le niveau de sommeil des militants et militantes de Québec semble pas trop bien se porter avec toutes les nouvelles qui sortent ces jours-ci. Comme je disais, on continue encore avec Santi Gold. Puis la chanson s'appelle « This isn't our parade ».
De CKIA FM, c'est toujours Ainsi soit-elle. Et Marie, tu nous as préparé une petite suggestion de lecture, un livre que tu as lu depuis un bon moment, tu nous disais.
Oui, depuis un bon bout, puis c'est un livre qui date de 2001, donc c'est pas comme si c'était une nouveauté, mais il y a des livres comme ça qu'on peut lire n'importe quand, ça fait toujours du bien. Là, c'est un livre d'Aminata Traoré qui s'appelle Le viol de l'imaginaire, donc c'est publié chez Actes Sud à Paris. Puis, titre très percutant, Le viol de l'imaginaire. En fait, Aminata Traoré, elle a été ministre de la Culture et du Tourisme au Mali. Mais elle a été plein d'autres choses. Elle a travaillé beaucoup dans des organisations de développement, entendez-le, entre guillemets, au Mali et tout ça. Puis c'est une vision très critique finalement des politiques néolibérales et de leurs effets dévastateurs sur le Mali puis sur l'Afrique en général. Et c'est vraiment un très bon livre qui se lit très bien. C'est un style littéraire, ça se lit très bien et très vite. Puis elle parle de la nécessité de décoloniser les esprits, de confronter les mots des discours dominants aux faits, donc tels qu'ils les vivent. Donc c'est vraiment une critique des dirigeants, de finalement de leurs intérêts avec les organisations internationales et tout ça, et puis de comment ça fait du mal aux populations. Donc c'est une analyse de ces dirigeants-là, puis de la population, de ce qu'elle vit au quotidien. Donc je vous invite à le lire. Je vais pas vraiment en parler beaucoup plus, mais je vous invite à le lire. J'imagine qu'on peut le trouver un petit peu partout. Je vous rappelle, c'est Aminata Traoré, Le viol de l'imaginaire, publié en 2001. Voilà, c'était ma petite suggestion de lecture, très rapide et très brève.
Okay. Merci. Peut-être qu'on peut enchaîner très rapidement, Tiffaine, sur un mini-retour sur le Festival Off de l'anarchie qui a eu lieu jeudi, vendredi, samedi, ici à Québec, dans différents lieux.
Oui, ben rapidement, c'était donc une initiative du collectif anarchiste L'Atelier. L'idée, c'était de faire un petit... une espèce de bourgeon de projet de festival de l'anarchie là, comme il y a à Montréal pendant toute la durée du mois de mai depuis de nombreuses années. Donc on commençait plutôt avec quelque chose de pas trop ambitieux, 3 jours. Mais bon, on l'appelle quand même le festival de l'anarchie. Il y avait jeudi soir un lancement du film Anarchronique, qui est un film sur les pratiques et les initiatives anarchistes au Québec. Fort intéressant. Une des réalisatrices était présente pour répondre aux questions et participer à une période de débat. Un débat qui a été houleux, mais bon, on en reparlera dans une autre de nos innombrables chroniques sur la langue macho et le partage de la parole. Et puis, ben, le vendredi soir, il y a eu le lancement d'un livre sur les services publics dans une perspective libertaire, avec un débat d'idées avec Serge Roy de Québec solidaire, qui a aussi lancé un livre sur les services publics, pas dans une perspective libertaire, mais semble-t-il un livre fort intéressant. Et puis samedi, c'était une journée d'atelier où quand même peut-être une quarantaine de personnes qui sont passées pendant la journée ont pu réfléchir à la question de l'histoire de l'anarchie au Québec, l'appropriation culturelle, un super bon atelier donné par la Fanfare Saint-Anard, qu'on connaît bien pour toutes les personnes qui vont dans une manif une fois de temps en temps. Vous les avez probablement vus et entendus surtout. Il faudra en parler ça aussi. Et puis un atelier que tu as donné, Evelyne, sur
ça s'appelait « À l'assaut du ciel ». C'était un petit peu sur le changement social, des pistes de réflexion sur la difficulté de le prévoir, de le planifier, de l'organiser. Puis quelques pistes de réflexion aussi sur l'intérêt justement sur les aspects non organisés des mouvements sociaux. Puis en même temps, il y avait un atelier sur l'éducation libertaire, mais là, où il ne s'agissait pas de sortir les gens du système d'éducation, mais bien d'essayer d'explorer des pistes à l'intérieur de l'éducation, du système d'éducation, notamment de l'éducation supérieure, comment essayer d'introduire des éléments là un petit peu plus libertaires, qui étaient donnés par
David Gagnon, qui est un prof de philo libertaire.
Voilà, puis ça s'est terminé.
Non, de littérature, je crois.
Ça s'est terminé par une belle plénière de discussion sur changer de ville ou changer la ville. Qu'est-ce que c'est qu'on fait quand on est des libertaires à Québec? C'est ça, c'est super intéressant. Puis une des conclusions qui en est sortie, c'est d'essayer d'affirmer une présence libertaire plus forte dans le mouvement social actuel. Donc, à suivre dans les prochaines manifestations.
C'est déjà la fin!
Oui, c'est déjà la fin. On va devoir vous quitter. Est-ce qu'on a une petite plug d'annonce ou d'événement à faire avant de...
Je pense que ces temps-ci, ça vaut même plus la peine de faire un calendrier ou 2 semaines.
Sortez
dans la rue à n'importe quel moment. Et il y a à peu près 13 manifs par jour jusqu'à la victoire.
Et comme nos camarades disaient par rapport à la loi 78, le trajet, c'est partout. L'horaire, c'est tout le temps.
Voilà, donc c'est la fin d'un squatel ASE à resist.ca si vous avez des suggestions pour l'année prochaine.
Bye bye!